et le Limousin sur vraiment une très grande partie ouest du pays, avec là aussi des orages qui éclatent dans la journée. Et partout ailleurs, on a vraiment un ciel qui alterne entre éclaircies, nuages et averses.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil à tous avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 6h.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Rassemblement national contre majorité, projet contre projet sur l'Europe. Quelques heures après le discours fleuve d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella lui a répondu en dévoilant le programme du RN pour les élections européennes. Dans l'actualité également, jusqu'à 2500 euros de primes pour travailler pendant les Jeux Olympiques, la menace d'une grève à payer pour les syndicats de la RATP. Ils sont tombés d'accord hier avec la direction. Et puis le boom des changements de nom de famille en France, ils ont triplé en 2 ans. Le journal de 6 heures, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous. C'est la dernière ligne droite pour les européennes. Elle est lancée et Emmanuel Macron intègre la bataille politique. Discours marathon du chef de l'État à la Sorbonne hier, 1h50 sur l'Europe et son constat sous forme d'avertissement avec la guerre en Ukraine.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Et la question de savoir si l'Europe sera une puissance d'innovation, de recherche et de production se joue maintenant. Nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Cela dépend de nous, dit le président. Peut-être sous-entend-il également du résultat du scrutin de juin prochain. Et c'est mal embarqué pour la majorité. Désormais, 12 points derrière le Rassemblement national qui pointe à 30% des intentions de vote. C'est le résultat ce matin du baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Le RN et sa tête de liste Jordan Bardella qui, quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron, ont détaillé leur projet. Alexandre Chauveau.
Oui, un projet bâti sur 2 piliers, protéger et produire. La protection d'abord, avec un renforcement des frontières, en faisant de Frontex une vraie agence de lutte contre l'immigration clandestine. Protection également des intérêts économiques de l'Union, en luttant contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. La production ensuite, pour tenter de réduire les dépendances de l'Europe. Cela passerait notamment par une coopération européenne des pays favorables au nucléaire, censée permettre, grâce à une énergie à bas coût, la réindustrialisation du continent. Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes.
Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent.
Au Rassemblement national, le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne est vu comme un engagement personnel dans la campagne. En cas de défaite, il devra donc en tirer toutes les conséquences, affirme Jordan Bardella, qui demandera en cas de victoire le 9 juin prochain une dissolution de l'Assemblée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Autre enseignement de notre baromètre ce matin. Les Républicains qui tombent à 6% des intentions de vote, même niveau que le parti Reconquête. Dans l'actualité également, Bercy sera fixé dans quelques heures. Les agences de notation Fitch et Moody's vont actualiser la note de la dette souveraine française ce soir, quelques semaines après l'annonce du dérapage du déficit public. Alors, dégradation de la note ou pas, le ministre de l'économie Bruno Le Maire se dit serein.
Après les policiers, les conducteurs de la RATP connaissent enfin le montant de leur prime olympique, Victor.
Après aussi de longues heures de négociations, la direction et les syndicats majoritaires, FO et CGT, sont tombés d'accord sur un chiffre. Et Barthélémy Philippe, la compensation offerte à ceux qui seront mobilisés sur toute la durée des Jeux Olympiques est plutôt conséquente.
Oui, la direction avait d'abord proposé 1200 euros. Finalement, ce sera 1600 euros. En agitant le spectre d'une grève, les syndicats ont obtenu 400 euros de rallonge. Les conducteurs toucheront aussi la prime d'événement de 44 euros par jour travaillé. Pour les plus mobilisés, le cumul des primes atteindra 2500 euros. Un montant à la hauteur des efforts consentis, selon le secrétaire général de FO RATP, Jean-Christophe Delprat, qui souligne l'importance du rapport de force avec la direction.
On a dû passer par les menaces de grève pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. En France, le fruit des négociations, c'est le rapport de force. Ça fait partie des armes qu'on a, nous, mais c'est aussi un constat d'échec. La direction ne nous a pas entendus.
De son côté, la direction de la RATP a fait savoir que, tout métier confondu, les agents mobilisés percevront en moyenne 1 000 euros de prime. Île-de-France Mobilité, qui finance l'offre de transport de la RATP, n'a pas communiqué le coût de ces primes, mais il va s'ajouter à l'enveloppe olympique de 250 millions d'euros prévue pour l'événement.
Barthélémy Philippe. Kenji Girac assure avoir voulu simuler un suicide alors qu'il était sous, tout cela pour faire réagir sa femme qui voulait le quitter. Voilà les explications du chanteur apportées par le procureur de Mont-de-Marsan hier. L'enquête pour homicide volontaire va être classée sans suite. Elle continue en revanche pour savoir d'où venait cette arme dont la balle a traversé le thorax de l'artiste.
Bientôt 2 ans après une loi pour faciliter les démarches, 150 000 personnes ont déjà changé de nom de famille en France, Victor.
C'est 3 fois plus qu'avant le texte, selon un premier bilan de l'INSEE. La plupart sont des jeunes, la moitié ont entre 18 et 29 ans. Et dans 2 cas sur 3, c'est pour remplacer le nom d'un parent par celui de l'autre, comme pour Jordan Buya. Dès sa majorité, il a pris le nom de son père pour oublier les traumatismes vécus avec sa mère.
J'ai eu des relations très conflictuelles avec ma maman tout au long de ma vie. Une enfance plutôt difficile, déplacement en famille d'accueil, pas mal de violence malgré tout. Quand j'ai su qu'on pouvait changer de nom sans forcément avoir de problème qui soit très très long, très laborieux, très coûteux, du coup j'en ai profité pour récupérer le nom de mon papa, pour pouvoir le donner à ma fille à ce jour. Pour moi, je pense que c'était vraiment un stop à tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie et de mettre derrière moi tout ce que j'ai pu vivre enfant. C'est quelque chose que je ne regrettais absolument. Jamais. À ce jour, c'est une certaine fierté en fait de me présenter. À l'époque, j'avais toujours plus ou moins honte de prononcer mon nom. Pour moi, ça reflète vraiment tout ce que j'ai vécu et j'avais aucune fierté à porter ce nom-là. Je demandais à ce qu'on m'appelle Jordan. Aujourd'hui, maintenant, je demande à ce qu'on m'appelle Monsieur Buya.
Les témoignages recueillis par Chloé Lagadou pour Europe 1. À l'étranger, c'était l'une des affaires à l'origine du mouvement MeToo. Une condamnation pour viol du producteur américain Harvey Weinstein a été annulée pour vice de procédure hier. Il y aura un nouveau procès. Indignation du côté des associations de victimes. Harvey Weinstein restera bien en prison où il purge une peine de 16 ans pour une autre affaire du même type.
6h06 sur Europe 1. Sauver les édifices religieux, c'était l'objet d'une grande collecte nationale lancée en septembre. Eh bien, on connaît maintenant les 100 premiers sites qui vont en bénéficier.
Et parmi eux, l'église de Jumeauville dans les Yvelines. Les travaux ont commencé là-bas, mais il reste tant à faire, comme l'a constaté sur place Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Nous sommes actuellement dans les combles de l'église de Jumeauville. On est vraiment dans la charpente.
Une magnifique charpente gothique qui menaçait de s'écrouler, mais qui a donc été sécurisée sous l'œil avisé de Johan Touchard, l'architecte missionné sur le chantier.
Le plus gros des travaux a été fait, et aujourd'hui on peut dire que oui, on a sauvé cette église.
Une église dont la structure est sauvée, mais l'adjointe au maire, Françoise Alexandre, compte bien sur l'argent de la Fondation du patrimoine pour avancer sur d'autres parties.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le chœur, il y a encore la charpente et la toiture du chœur aussi, puisque là pour l'instant on n'a fait que la nef.
Il reste encore du travail, mais au vu de tout ce qui a été entrepris, c'est déjà pour le maire Jean-Claude Langlois beaucoup d'émotions.
Et j'ai été enfant de chœur pendant 6 ans dans cette église. Et ça, c'est pour ça que, croyant ou pas, beaucoup disent de toute manière cette église c'est un monument. Et ce monument, il faut le conserver.
Et la vie devrait reprendre dans cette église de Jumeauville d'ici quelques mois. Baptême ou autres mariages pourront y être célébrés.
Alexis de la Fléchère. Et puis tiens, je vous en parlais hier, à la même heure d'ailleurs. Le grand prix de la meilleure baguette parisienne a livré son verdict hier. On dit bravo à la boulangerie Utopie dans le 11e arrondissement. Son boulanger Xavier Nétry gagne le droit de fournir l'Elysée pendant 1 an. Il gagne aussi 4 000 euros, c'est
ça,
pas négligeable.
Faire des baguettes.
Son titre, il lui sera officiellement remis le 7 mai par la mairie de Paris. Alors pourquoi le 7 mai, vous me direz?
Oui.
C'est la fête du pain dans la capitale.
Ah ben voilà. La fête du pain, ben voilà, rendez-vous le 7 mai. Et même avant, pour aller goûter ce pain d'exception. Merci Victor Pourchet et bienvenue à tous sur Europe 1. Il est 6h08.
Dans un instant, le pressing, les articles à lire dans les journaux ce matin, avec notamment une association qui demande la restitution de la Joconde aux descendants de Léonard de Vinci.
À tout de suite sur Europe 1.
5h-7h,
Europe 1 Bonjour.
Retrouvez du lundi au vendredi à 6h40 sur Europe 1, l'invité éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, hein? Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur but.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, là-bas c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue à tous, chers auditeurs, et bon petit déjeuner avec du bon pain à 6h11 à l'écoute d'Europe 1, bonjour.
Bonne baguette.
Mais oui, c'est votre pressing, la revue de presse d'Europe 1, bonjour, avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin,
bonjour
à tous.
Qu'avez-vous repéré dans la presse ce matin?
Et si la Joconde quittait le musée du Louvre? Le Conseil d'État doit trancher après une demande de restitution du célèbre tableau.
Omblin.
Un centre unique au monde pour former notamment les urgentistes et les pompiers aux catastrophes naturelles vient d'ouvrir à Toulouse.
Tiens, j'ai une question pour vous. Si je vous demande quel est l'objet fabriqué par l'homme qui se trouve actuellement le plus loin de nous dans l'univers, est-ce que vous avez une petite idée?
Bon, alors, c'est une fusée?
Oui, ou presque.
Presque.
Sur Mars, le robot Curiosity.
Bien plus loin.
Non.
C'est Voyager 1, vous en avez déjà entendu parler,
oui,
cette sonde spatiale, sonde américaine. Hein. Alors, les Américains l'ont envoyé dans l'espace en 1977. Vous voyez que ça remonte un petit peu.
Ça remonte.
C'était l'exploration du système solaire à l'époque, sa mission. Depuis cette année 77, eh bien, Voyager 1 n'a pas arrêté de voyager plus loin de nous encore à travers l'espace. Aujourd'hui, la sonde, elle est à 24 milliards de kilomètres de la Terre.
Ah oui.
Alors, c'est déjà un miracle en soi.
Oui.
L'autre miracle, c'est les ingénieurs de la NASA qui viennent de l'accomplir. Parce que figurez-vous que depuis la fin de l'année dernière, les signaux radio qu'envoyait la sonde montraient qu'elle débloquait complètement.
Ah.
Eh bien, il se trouve qu'à 24 milliards de kilomètres de distance, les ingénieurs américains ont réussi à reprogrammer l'ordinateur de la sonde pour la faire repartir.
Ah oui, d'accord. Presque 50 ans après son départ. Donc, oui, c'est une prouesse
technique. Presque 50 ans, oui. Alors, l'âge de la sonde, c'est une première chose. C'est vrai qu'elle a été conçue il y a plus de 50 ans, en réalité, avant d'aller dans l'espace. On pourrait se dire, elle a fait son temps.
Mm-hmm.
Vous imaginez les trésors d'ingénierie, d'ailleurs, pour qu'elle fonctionne encore. Hein. Mais au-delà de son âge, mais c'est la distance pour envoyer et recevoir les ordres. 24 milliards de kilomètres, ça veut dire
ça
quoi?
Ça fait loin, oui.
C'est vrai que dans l'espace, il y a une vitesse limite. C'est la vitesse de la lumière. Mm-hmm. Rien ne peut aller plus loin, plus vite.
Plus vite.
300 000 kilomètres par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez un ordre à Voyager 1, même à cette vitesse, bah, il faut plus de 22 heures pour que la sonde reçoive l'ordre. Même chose dans sens inverse.
Oui.
Hein, plus de 22 heures pour recevoir la réponse.
Alors, c'est très très long, c'est très très loin, mais ça a marché.
Mais ça a marché. Et donc, Voyager 1 continue de travailler pour la science. Alors maintenant, au-delà du système solaire, hein, la sonde en est sortie. Elle explore l'espace interstellaire, elle étudie les champs magnétiques et bien d'autres choses encore. Il y a même des messages qui sont gravés dessus, vous savez, des messages qui sont pensés en langage universel, s'il y en a un, au cas où cette sonde, bah, je ne sais pas, rencontrerait un jour des petits hommes verts, une intelligence extraterrestre. 24 milliards de kilomètres de distance.
Ça fait rêver,
voilà, et ce n'est pas terminé. Omblin,
C'est un centre unique au monde qui vient de voir le jour, qui voit le jour à Toulouse. Un centre pour former les personnels du SAMU, les forces de l'ordre, les pompiers, les personnels humanitaires aux catastrophes. Le quotidien aujourd'hui en France a assisté à la première simulation réaliste.
Vous dites les catastrophes naturelles ?
Oui, mais aussi les attentats, Dimitri, les attaques biologiques, les accidents industriels. Un peu plus de 360 mètres carrés dédiés afin, nous dit le quotidien, de plonger les équipes d'urgence dans un scénario très très réaliste et plutôt stressant.
Ça fait un peu peur, tout ça. C'est quoi le but ? C'est de s'entraîner à pratiquer avoir les bons gestes, en fait.
Oui, et d'avoir peur, voilà. De pouvoir pratiquer et de sauver des personnes dans un environnement stressant.
Oui.
L'idée, explique une médecin urgentiste, est de mettre les agents en conditions réelles en cas d'événement de ce type. Il s'agit aussi de prévenir les réactions de stress post-traumatique des soignants.
Mais quelle catastrophe a été simulée pour cette première ?
Alors, un accident dans une usine chimique. Il faut savoir agir vite, de manière efficace, rester calme, en respirant les odeurs chimiques qui se diffusent dans l'obscurité et les bruits stressants.
En respirant malgré soi.
Bien sûr, puisqu'on est en plein catastrophe. Oui. En tout cas, c'était bien sûr inoffensif pour cette simulation. Aujourd'hui en France, précise que les soignants sont formés à travailler sous les balles, à ne pas rester en permanence avec un patient, ce qui est contre-intuitif, mais ils doivent savoir se mettre en sécurité pour intervenir à nouveau. Formés aux catastrophes dans un centre unique au monde créé par le CHU de Toulouse, dans Aujourd'hui en France.
Dimitri, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Vous nous avez dit il y a un instant que la Joconde pourrait quitter la France, pourrait quitter le musée du Louvre fait.
C'est du très très sérieux et c'est le quotidien gratuit 20 minutes qui nous en parle ce matin. Depuis hier, la plus haute juridiction française, le Conseil d'État, examine une demande de restitution du célèbre tableau déposé par une association, un collectif disant agir pour le compte des descendants, des héritiers du peintre Léonard de Vinci.
Mais quels sont les arguments avancés par cette association?
Pour comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps, plus de 5 siècles en arrière.
D'accord.
En 1516, très exactement, date à laquelle Léonard de Vinci a offert le tableau au roi François Ier en échange d'une protection. Et c'est cette version-là qui est contestée par le collectif. Pour eux, ce tableau n'appartient pas au roi, qui se l'est approprié. Selon leurs mots, ils souhaitent donc que l'œuvre quitte le Louvre et revienne à qui de droit.
Alors, qui va trancher, c'est notre plus haute juridiction, le Conseil d'État. Est-ce qu'il y a une chance que cette demande aboutisse, Dimitri ? J'imagine que non.
Non, il y a très peu de chance, soyons honnêtes, puisqu'il y a quand même une légère réécriture de l'histoire quand même dans cette requête. Et puis, secondo, le Conseil d'État a déjà examiné plusieurs requêtes de cette association concernant d'autres œuvres. Et à chaque fois, la haute juridiction française a déclaré que ce collectif était non légitime, qu'il n'avait pas la qualité pour agir.
Oui.
Bref, en fait, la Joconde devrait rester au Louvre pendant un bon bout de temps.
On pourra aller l'admirer en jouant un petit peu d'écoute, parce que c'est pas évident de l'approcher, la Joconde, quand on va au Louvre. Ah oui, c'est quand même l'endroit à peu près le plus fréquenté du Louvre.
Ils veulent recréer une nouvelle pièce, on en parlait ce matin.
Absolument.
Ils veulent créer une nouvelle pièce pour que ça soit un petit peu plus sympa de regarder la Joconde.
En tout cas, la Joconde reste au Louvre pour l'instant.
Merci, c'est la bonne nouvelle.
Dimitri Vernet, c'était votre pressing, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour. N'oubliez pas votre rendez-vous tout à l'heure avec Culture Média dès 9h avec Thomas Hill et ses chroniqueurs, le tour de l'actualité médiatique et culturelle. Les invités de Thomas Hill ce matin, Ombline.
David Hallyday qui vient de sortir le titre 100% et qui sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre. Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
Dans un instant sur Europe 1, la partition du groupe Def Leppard. D'abord le journal permanent à 6h17, Victor Pourchet.
Les élections européennes et le baromètre Opinion Way pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche ce matin. Légère progression du Rassemblement National, plus 1 point à 30% des intentions de vote. Léger recul en revanche pour la majorité et donc 12 points d'écart désormais. La liste du socialiste Raphaël Glucksmann, 3e à 13%, n'est plus qu'à 5 points du camp présidentiel. Le gouvernement veut tester l'enfouissement du CO2 en France. Objectif, réduire les émissions. Les anciens gisements de pétrole de l'Hexagone ou ceux presque inutilisés sont appelés à se manifester. Ce dernier recours pourrait être expérimenté dès 2025. Et puis la production de vin s'écroule, mais pas chez nous. Moins 10% au niveau mondial en 2023. Les pires vendanges depuis 63 ans. Les conditions climatiques extrêmes sont en cause, mais plus 4% en France et donc qui creuse l'écart en tête des plus gros producteurs.
Merci Victor Pourchet. Les infos 6h30 dans un peu plus de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue à tous, 6h18, votre partition sur Europe 1 en Blin Roche, c'est l'un des albums emblématiques de ce groupe anglais Def Leppard, l'album Pyromania, est réédité aujourd'hui en édition de luxe.
Oui, un peu plus de 40 ans après la première parution, Pyromania est l'album qui a permis aux Britanniques chevelus de fouler la terre promise de la musique, les États-Unis.
Def Leppard. Alors s'il fallait traduire, ça donnerait à peu près le léopard sourd. C'est vrai que ça joue fort. Hein. Def Leppard, l'un des principaux représentants d'un nouveau courant musical né à la fin des années 70.
Oui, et qui s'appelle le New Wave of British Heavy Metal, la nouvelle vague du heavy metal britannique. NWOBHM, hein, c'est pas terrible hein, comme acronyme oui. Pour définir un style de musique, mais en Angleterre, la New Obom, voilà comment on le prononce, fait des émules au sein de cette nouvelle scène rock.
Alors elle se définit comment cette New Obom nouvelle vague du heavy metal britannique. Voilà.
Hein. Et bien, alors pour trouver la définition exacte, j'ai ouvert le livre « Le rock pour les nuls » de Nicolas Dupuis. Excellent ouvrage,
hein, du reste. Aussi,
mais
oui.
C'est un rock plus hard, plus fort, plus rapide. Le bouton de l'ampli poussé à fond. C'est une mise à jour du heavy metal de Led Zeppelin, Deep Purple ou Black Sabbath. S'ils ont posé les jalons du genre lorsque se terminent les années 70, cette vieille garde du hard rock britannique s'essouffle. À ce heavy metal, vous enlevez les quelques bribes de blues qui avaient résisté et vous le fusionnez au mouvement punk, alors en pleine expansion. Et pour le visuel, et bien des vestes en jean avec écussons, des têtes qui se balancent en avant frénétiquement, le headbang et puis l'incontournable air guitar. Voilà, les représentants de la nouvelle vague du heavy metal britannique sont Iron Maiden, Judas Priest et puis bien sûr ces petits gars de la ville industrielle de Sheffield au nord de l'Angleterre, Def Leppard emmené par le chanteur Joe Elliott.
Il arrive quand le tout premier album de Def Leppard ?
En 1980, un peu de temps après avoir assuré la première partie de la tournée anglaise d'ACDC, principale influence du groupe, hein, ACDC et son frontman de l'époque, hein, Bon Scott, quelques mois avant son décès. Des débuts prometteurs donc, qui attirent l'attention du producteur de rock par excellence, Robert Mutt Lang, l'homme d'ACDC, et bien plus tard de Lady Gaga et de Muse. Tout ce que Mutt Lang touche se transforme en or. Il produit le deuxième album de Def Leppard, mais surtout, et je l'évoquais plus tôt, il offre aux Britanniques l'Amérique, autant dire le monde.
Qu'est-ce que Mutt Lange apporte à Def Leppard exactement ?
Un hard rock disons plus consensuel, plus sophistiqué, plus accessible aux oreilles sensibles. La musique de Def Leppard s'ouvre de fait à un public plus large, en particulier celle du troisième album Pyromania, qui reste aujourd'hui leur plus grand succès. Le hard rock passe à la radio et les clips tournent en boucle, la popularité des Anglais est décuplée, si bien que le titre phare de Def Leppard, Photographe, qu'on écoute maintenant sur Europe 1, talonne le Thriller de Michael Jackson tout en haut des charts américains. photographe dans la partition sur Europe 1, extrait de l'album Pyromania de 1983, écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. Album réédité aujourd'hui en édition de luxe, vinyle et coffret 4 CD. J'en profite pour vous recommander le documentaire Arte Heavy Metal Kingdom sur la New Obom. Voilà, la New Wave of British Heavy Metal, la nouvelle vague rock britannique diffusée ce soir à 22h35 sur Arte, et disponible sur arte.tv jusqu'au 25 mai. Def Leppard toujours en activité, vous me demandiez.
Il pilote le batteur, hein, il fait pas semblant. Hein.
Ah non, ça
et oui, et donc ils sont toujours en activité.
Toujours, ils sont en activité, ils organisent, ils assurent des concerts pour l'instant uniquement aux États-Unis.
Merci Omblin Roche et bon début de matinée à tous au son de Def Leppard. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 vendredi 26 avril.
Merci de choisir Europe 1, le Europe 1 bonjour jusqu'à 7h. La revue de presse internationale à suivre avec les correspondants, Alexandre.
On sera en Belgique, les demandeurs d'asile doivent désormais contribuer financièrement à leur accueil sur le territoire belge. À 7h moins le quart, on va retrouver Jean Z, les initiatives positives.
Ce matin, de l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale et végétale. Dans 10 minutes, votre interview est quoi, Alexandre Demers ?
Fin du suspense ce soir. Alors, tard dans la soirée, hein, les deux agences de notation Fitch et Moody's vont remettre leur note à la France, la note à l'économie française. Le gouvernement attend ça et va regarder ça de très près. Conséquences économiques, évidemment. Les investisseurs regardent toujours ces notes attentivement. Conséquences politiques en pleine campagne des européennes. Tout savoir sur ces agences de notation. L'économiste Xavier Timbaud vous répond à 7h moins 20 sur Europe 1. Dans un instant, la météo.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés, ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Tout à l'heure, à 6h50, retrouvez la revue de presse internationale avec Valtus, leader européen du management de transition. Valtus, c'est déjà plus de 3500 missions management de transition réalisées dans 50 pays.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, un grand dossier sur le cauchemar des droits de succession, un impôt qui rapporte beaucoup plus qu'ailleurs et que les Français détestent. Dans Challenge, les barèmes et les solutions pour réduire l'impôt et aussi les incroyables batailles autour des testaments. À retrouver cette semaine dans Challenge.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 2 avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de 2. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe 1.
Le temps pour ce vendredi, Anissa Haddadi, nous allons entendre le tonnerre gronder aujourd'hui.
Oui, des orages qui se développent tout au long de la journée. Vous verrez que les orages seront bien plus nombreux cet après-midi que ce matin. Ce matin, les pluies les plus importantes se situent entre le Languedoc et le Grand Est, en passant par l'Auvergne, la vallée du Rhône, la Bourgogne, et des orages éclatent entre le Languedoc et les Cévennes jusqu'en Provence. Vous pourrez entendre le tonnerre gronder. Il neige à partir de 1500 mètres d'altitude sur les Alpes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de vent. Ça y est, on en a fini avec le Mistral et la Tramontane dans le sud. Le vent d'OTAN va se lever cet après-midi dans son secteur avec des rafales jusqu'à 40 km/h. Cet après-midi, on a un temps maussade partout. On a vraiment un ciel couvert sur l'ensemble des régions, sauf en Corse, hein, où là, le soleil brille, la journée est plutôt agréable. Mais sinon, sur le continent, on a vraiment des nuages partout, des averses qui vont concerner tout le monde, qui alterneront avec quelques éclaircies. Et surtout, cette perturbation orageuse qui arrive de l'Atlantique. Donc cet après-midi, les orages vont se développer en Basse-Normandie, en Bretagne, du côté du Limousin. Cet après-midi, les orages qui étaient ce matin sur le Languedoc vont remonter dans la vallée du Rhône pour toucher l'Auvergne et le sud de la Bourgogne. Les températures Là, ça remonte bien. Cet après-midi, on n'a plus aucune gelée. 3 à 11 degrés. Et cet après-midi, 10 à 19 degrés. C'est quasiment comme hier, mais on gagne 1 à 2 degrés partout.
Bien, on se rapproche un peu des normales de saison tout de même.
Mais
on n'y est pas
quand
encore,
même
mais on s'en rapproche.
Partout en dessous de 20 degrés.
On est encore en dessous de 20 degrés. Merci Anissa Haddadi. Bon réveil, il est 6h30 sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Un geste de désespoir. Voilà le fond de l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a admis avoir tenté de simuler un suicide pour retenir sa femme. Explication dans ce journal. Les mouvements pro-palestiniens de plus en plus mobilisés sur les campus à Sciences Po Paris. Ils ont de nouveau occupé un bâtiment hier soir. Europe 1 aux États-Unis ce matin, où plus de 60 universités sont elles aussi concernées par ces manifestations. Plus de 140 000 Français ont changé de nom depuis 2022. Ce sont essentiellement des jeunes et des femmes. Conséquence de la loi Vignal qui facilite cette démarche. Et puis Europe 1, radio officiel de Roland-Garros. Le tournoi débute dans un mois exactement avec une nouveauté, un toit tout neuf pour le cours Suzanne Lenglen. 6h30, le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On a le fin mot de l'histoire et il est tragique. Dans l'intimité de sa caravane sur une aire de gens du voyage à Biscarrosse lundi matin, Kenji Girac affirme avoir voulu simuler un suicide pour retenir sa femme. C'est ainsi qu'il s'est blessé au thorax avec une arme à feu, comme l'a expliqué le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide. « J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. » Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. « J'ai pris l'arme avec la main gauche par le canon. Je l'ai amené à ma main droite. Je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il précisera par la suite, j'étais sous à un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie.
La conférence de presse du procureur de la République, jugée indécente par les proches de Kenji Girac, qui y voit un grand déballage de sa vie privée. Sur X, le chanteur Vianney a critiqué un procureur, je cite, multicasquette, et d'ajouter « j'espère que la presse people lui enverra des fleurs ».
6h32 sur Europe 1, un bâtiment de Sciences Po Paris, de nouveau occupé hier par des étudiants pro-palestiniens.
Oui, à la fermeture des grilles, 50 à 70 d'entre eux ont refusé de quitter les lieux, ravitaillés par environ 80 étudiants mobilisés à l'extérieur, dans la rue. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils avaient déjà été évacués par les forces de l'ordre. Ils réclament, je cite, « la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et l'arrêt de ce qu'ils estiment être une répression des voix pro-palestiniennes sur le campus ».
Et ce sont des mobilisations que l'on observe également sur les campus américains.
Oui, notamment à Columbia, qui a des cursus en commun avec Sciences Po Paris. L'université de New York a ouvert des négociations avec les étudiants pro-palestiniens. Elle annonce ce matin qu'elle reporte l'évacuation du campus le temps de ces négociations. En revanche, à USC, en Californie, au Texas, dans l'Ohio, en Géorgie, la police est intervenue. Au total, près de 400 manifestants interpellés et une soixantaine d'universités concernées, dont celle de UCLA à Los Angeles, où vous vous êtes rendu pour Europe 1, à Viva Fried.
Oui, environ 200 manifestants ont érigé des tentes sur une pelouse au centre de l'université. Tout autour, il y a des palettes en bois sur lesquelles sont accrochées des affiches proclamant « Free Palestine » ou bien encore « Abat l'impérialisme américain ». Des étudiants, tous masqués, revêtus de keffiyeh, se relaient au mégaphone pour hurler des slogans. Les journalistes ont interdiction de passer la barrière et de parler à n'importe qui. J'ai dû attendre qu'une porte-parole officielle du mouvement veuille bien me répondre par un discours bien rodé.
Nous sommes ici car on ne peut pas faire comme d'habitude alors qu'un génocide se déroule à Gaza depuis 200 jours.
Et pas question, bien sûr, de mentionner les otages israéliens retenus par le Hamas.
Si on pense à autre chose, ça nous détourne de notre principal objectif.
Une vingtaine d'étudiants arborant des drapeaux israéliens circulent sans encombre. Pourtant, une étudiante juive m'explique qu'au quotidien, les choses sont compliquées.
J'ai eu une altercation avec une femme. Elle a regardé mon étoile de David et elle m'a poussée violemment.
Mais la direction de UCLA n'a pas l'intention pour l'instant de prendre des mesures contre le campement. La présence policière sur place est d'ailleurs quasi inexistante.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Retour en France, Gérald Darmanin soutient les maires qui ont décrété des couvre-feux pour les moins de 13 ans.
À l'instar de celui mis en place à Béziers depuis lundi ou celui qui devrait voir le jour le mois prochain à Nice. Hier soir à la télévision, le ministre de l'Intérieur a déclaré, je cite, « Il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, à 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux, dormir et aller le lendemain à l'école. »
À moins de 2 mois des élections européennes, la politique et le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche.
Oui, comme toutes les semaines, on fait le point sur les intentions de vote pour les élections européennes. Le RN reste largement en tête avec 30% d'intentions de vote, soit un point de plus que la semaine dernière. La liste Renaissance perd un point en revanche. Elle est à 18 points, suivie de celle du Parti Socialiste à 13 points.
Europe 1, 6h35, changer de nom de famille pour changer de vie ou rompre peut-être avec son passé. C'est ce qu'on fait en tout cas plus de 140 000 Français entre août 2022 et septembre 2023.
Oui, car la démarche a été grandement facilitée par la loi Vignal. Depuis son entrée en vigueur, l'INSEE recense 3 fois plus de changements de patronyme. Louise Salé, plus besoin de passer devant le juge pour ajouter ou substituer son nom à celui d'un de ses parents.
C'est cette loi Vignal qui explique en effet ce boom des changements de nom, des démarches surtout réalisées par des femmes et par des jeunes adultes. Lionel Espina, c'est co-auteur de l'étude à l'INSEE.
Déjà, avant la loi Vignal, les femmes étaient un petit peu plus nombreuses. Avec la loi Vignal, ce phénomène s'est un peu accentué. On a plus de la moitié des personnes qui ont entre 18 et 29 ans. Et puis plus l'âge avance, moins on a de personnes qui se lancent dans ce processus de changement de nom de famille.
Angie David a pris le nom de sa mère et l'explique dans un livre, La Renommée, paru ce mois-ci.
Je voulais quitter le nom de mon père, car mon père s'est très mal, ou même plutôt pas du tout occupé de moi. Et je me faisais d'ailleurs déjà appeler du nom de ma mère, c'est-à-dire David. Angie David était mon pseudonyme, l'équivalent d'un pseudonyme sur le plan juridique depuis 20 ans. Et j'ai pu, grâce à cette loi, devenir pleinement Angie David.
Et dans son étude, l'INSEE note que les 2/3 des demandes concernent le remplacement du nom d'un parent par l'autre, davantage qu'un simple ajout de nom au nom initial.
Louise Salé du service Société d'Europe 1.
Les sports à 6h36 sur Europe 1, plus qu'un mois avant les premiers échanges de balles à Roland-Garros.
Début du tournoi le 26 mai prochain, cette année encore Europe 1 et radio officielle de Roland-Garros, avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Une édition 2024 qui compte quelques nouveautés, par exemple sur le court Suzanne Lenglen. Il y aura désormais un toit rétractable, Axel May.
Roland-Garros, c'était la dernière épreuve du Grand Chelem à ne proposer qu'un seul court couvert. Ce ne sera plus le cas. 4 ans après le central, le Suzanne Lenglen se dote enfin d'un toit rétractable, se félicite la directrice du tournoi parisien, Amélie Mauresmo.
C'était vraiment important d'avoir ce deuxième court couvert en capacité d'abriter 10 000 personnes. C'est un vrai plus pour nous en termes de programmation, de sécurité sur des journées où on saura qu'il risque de pleuvoir.
Pour la première fois, le court Suzanne Lenglen sera d'ailleurs utilisé lors de la semaine des qualifications, semaine durant laquelle les organisateurs visent 75 000 spectateurs, 50% de plus que l'année dernière. Sur l'ensemble du tournoi, plus de 650 000 personnes sont attendues, porte d'Auteuil, ce qui constituerait un nouveau record. Parmi les autres nouveautés, une 11e session nocturne va faire son apparition et la billetterie sera totalement dématérialisée. Pour pouvoir présenter leurs billets, les spectateurs devront donc télécharger l'application Roland-Garros.
Axel May.
Merci Fanny Marceau, il est 6h38. Bon réveil à tous avec Europe 1.
À 7h15, retrouvez les initiatives positives de Jean Z ce matin, de l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale et végétale. Votre invité dans un instant, Alexandre Lemaire.
Dernières heures de suspense avant la note qui sera attribuée à la France. L'économie française menacée de dégradation par les 2 agences de notation Fitch et Moody's. Ces notes ont un impact sur l'engagement des investisseurs. Tout savoir sur le pouvoir, la légitimité des agences de notation, leur méthode, dans un instant avec l'économiste Xavier Timbaud. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback Itens 100% électrique d'occasion à partir de 199 € par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr.
Pensez à covoiturer.
Alors, ça se passe comment ton boulot chez But ?
Eh ben écoute, c'est juste waouh quoi. Et puis tu vois, génial quoi. Et puis c'est tellement...
Travailler chez But, ça ne se raconte pas, ça se vit. Pour ses magasins et ses dépôts, des centaines de postes sont à pourvoir. De la vente et la logistique jusqu'au management, But recrute dans toute la France. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur But recrute.
Enfin tu vois quoi.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question, pourquoi la glace ne fond pas sur les étals ? Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon ? C'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte... Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Transformés en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1.
7h20 ce vendredi 26 avril. Excellente fin de semaine à tous avec Europe 1. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
À la une d'Europe 1 matin à partir de 7h.
Écoutez Alexandre.
Connaissez ou pas ça ?
Eh bien, ça ne me dit rien.
Je vais vous aider. C'est Moody Blues.
Moody Blues.
Moody, on parle de Moody.
Je vous vois venir.
Voilà, donc l'agence Moody's, Moody Blues, voilà. On va parler de la note souveraine de la France ce matin. La fin du trimestre approche et c'est l'heure du bulletin pour le Trésor public. Ce soir, 22h, donc les agences Fitch et Moody's vont mettre à jour notre note financière. Alors, dernière nouvelle, on est AA-, perspective stable chez Fitch et AA2 stable également chez Moody's. En gros, c'est 18/20. C'est pas catastrophique. Hein. Alors, est-ce qu'on mérite de perdre des points vu notre déficit de 5,5 et le niveau de la dette ? Alors, je vais vous dire, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur le plan économique. D'ailleurs, ce matin, c'est un signe dans le journal Les Échos, comme le journal de l'économie. Il n'y a pas une ligne sur Fitch et Moody's. Je vous assure, j'ai regardé le journal de A à Z, il n'y a pas une ligne, on n'en parle pas du tout. Pourquoi ? Parce que le marché a reçu tous les signaux qu'il attendait. Le gouvernement a annoncé des économies. Il n'y a pas d'actifs sûrs, il n'y a pas tant d'actifs sûrs que ça sur les marchés. C'est-à-dire que les Allemands, les Hollandais empruntent très peu. Et on le fait à leur place grâce à l'euro. Alors, à moins que nous reculions de plusieurs crans d'un coup, alors là, ça pourrait être un événement de marché, mais a priori, ce sera strictement un événement politique. Et ça l'est déjà depuis plusieurs semaines, puisque qu'est-ce qu'on entend notamment à droite ? On entend dire que la France, c'est devenu la Grèce. C'est très excessif, mais enfin, il y a toute cette mousse quand même sur la note souveraine de la France qui permet d'instruire le procès en incompétence du gouvernement, ça on l'a compris. Alors, si la note ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer ? On dira que ça n'est que partie remise. Pourquoi ? Parce qu'il y a Standard & Poor's qui arrive avec sa note, le 31 mai. Exactement, Alexandre, on va en parler ce matin sur Europe 1. A tout à l'heure, Dimitri.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1, bonjour, 5h-7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 6h42.
Les voilà donc, ces agences de notation qui vont livrer un résultat qui est toujours scruté de près par Bercy. Ces agences de notation américaines qu'évoquait Dimitri Pavlenko à l'instant, Fitch et Moody's rendent effectivement leur verdict ce soir sur la solidité financière de la France. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce que cette note de la France risque malgré tout d'être dégradée ? Quelles seraient dans ce cas-là les conséquences pour l'économie française ?
Eh bien, vous en parlez avec votre invité. À présent, Alexandre Lemaire, il s'agit de Xavier Timbaud, économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour.
Première question pour les auditeurs d'Europe 1. Une agence de notation, ça sert à quoi très concrètement ?
Alors, l'activité principale d'une agence de notation, c'est de donner des notes à des titres financiers, principalement des obligations émises par des entreprises. Les entreprises payent l'agence de notation et l'agence de notation étudie le dossier de l'entreprise, la nature de l'obligation, le contrat, et ensuite va émettre une note qui représente la qualité, la sécurité qui est offerte par cette obligation. Si vous avez la note A, ça veut dire que c'est une obligation très sûre. Et puis, si c'est une obligation qui est très incertaine, par exemple, il y a un risque important de faillite de l'entreprise, l'entreprise est une start-up, disons, et ben à ce moment-là, elle va avoir une très mauvaise note qui va être C, D ou pire. Et ça va indiquer aux investisseurs qu'ils prennent un risque en acquérant cette obligation et donc qu'ils sont en droit d'attendre un rendement supérieur, une prime de risque qui vient s'ajouter au rendement habituel pour compenser ce risque qui est pris.
Alors, la France a connu une dégradation de sa note l'année dernière. Fitch, l'agence Fitch, nous avait noté AA-, quand une autre agence, Standard & Poor's, avait maintenu la note du double A, AA, qui est donc supérieure. Quelle est la note actuelle de la France qui est retenue, Xavier Timbaud, et est-ce qu'elle est bonne ?
Alors, la note actuelle de la France, ça dépend des échelles de notation qui sont un peu différentes d'une agence à l'autre, mais il y a convergence dans la note, dans la comparaison qu'on peut faire. La France est notée ce qu'on appelle high grade, c'est-à-dire le titre de très bonne qualité. Il y a un cran supérieur qui est le triple A, qui est là une note extrême, c'est une sorte de 20 sur 20 si vous voulez. Donc la France a la note en dessous de 20 sur 20. On va dire entre 17 et 19 sur 20. Elle est d'ailleurs plutôt en ce moment dans la partie 17 sur 20 que 19 sur 20. Mais ça reste quand même ce qu'on appelle des titres de très haute qualité, donc qui offrent une grande sécurité, une très grande sécurité. Et en gros, qui disent le risque de défaut sur ce titre, qu'il soit complet ou partiel, est effectivement extrêmement faible.
Alors, c'est dans ce contexte qu'on attend les notes aujourd'hui des agences américaines Fitch et Moody's, des agences qui risquent de venir dégrader cette notation de la France, Xavier Timbaud ?
Alors, je ne peux pas vous dire quelle va être la décision de ces deux agences de notation qui vont prendre leur décision ce soir, Fitch et Moody's. Et si je le savais, je pourrais essayer d'utiliser cette information sur les marchés financiers en essayant de gagner un peu d'argent. Mais il est quand même très probable que ces agences ne vont probablement pas dégrader la France. Je m'avance sans doute un peu en vous disant ça. Mais la situation de la France est loin d'être mauvaise, quoi qu'on puisse en dire dans le discours politique. Et puis en particulier quand on regarde la façon dont les marchés financiers aujourd'hui considèrent la situation française, on voit qu'il n'y a absolument pas de tension sur les taux d'intérêt et que les taux d'intérêt qui sont pratiqués pour la France restent très bas. L'écart avec l'Allemagne est plutôt bas. Et donc, du coup, tous ces éléments peuvent conduire à penser qu'il n'y aura probablement pas de mouvement de dégradation parce qu'il n'y a pas de raison d'enclencher une panique. Sachant que
sans parler de panique, le contexte actuel tout de même, Xavier Timbaud, n'incite pas à l'optimisme. Une dette publique à 3000 milliards d'euros. On voit que Bercy cherche des économies à tous les étages, plusieurs dizaines de milliards. Le gouvernement revoit les prévisions à la baisse. Tout ça, ce ne sont pas des très bons signaux malgré tout.
Alors, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais dégrader la note, ça voudrait dire on estime qu'il y a un risque de défaut sur la dette publique. Et là, ça serait passé de vous avez des
on
problèmes.
On est un cran au-dessus là. Oui.
Voilà, vous allez utiliser des solutions radicales pour régler ces problèmes, qui seraient de dire, nous ne respecterons pas nos engagements en termes de dette. Or, ça, c'est très peu probable. Alors, les agences de notation ont là un moyen de donner une grande finesse dans leur notation, sans dégrader la note. Dégrader la note, ça serait embêtant parce que ça nous ferait passer de high grade à quelque chose de moins bien, et donc ça serait une dégradation qualitative assez importante. Mais par contre, elles ont toutes les deux annoncé qu'on avait des perspectives qui étaient stables, et donc elles peuvent mettre des perspectives négatives. Négatives, ça veut dire, on change pas la note, mais on est quand même un peu inquiet, et donc on continue de regarder la situation avec attention, et on va être très attentif aux futurs développements. En particulier, la crédibilité du pays à faire face aux problèmes que vous évoquez.
Oui, la question qu'on peut se poser tout de même, puisque on voit bien que les gestes des agences de notation, leurs décisions ne sont pas du tout anodines, elles ont des conséquences concrètes. D'où tirent-elles leur légitimité ? Qui décide que telle agence a le pouvoir de distribuer comme ça des bonnes ou des mauvaises notes qui concernent des États, des économies nationales, Xavier Timbaud ?
Alors, l'activité notation des souverains, donc notation des dettes publiques, est une activité que ces agences de notation réalisent à titre gratuit. Donc là, c'est la liberté d'expression, en fait. Je veux dire, tout comme vous, quand vous faites un édito, vous pouvez donner votre avis. Bah là, les agences de notation donnent leur avis sur la dette publique. Alors effectivement, ça peut avoir beaucoup d'influence. Et donc, du coup, il y a beaucoup de pression sur ces agences de notation, d'où l'idée d'avoir un agrément par la Commission européenne, en fait, pour que ces agences soient obligées d'expliciter leur notation, que ça ne soit pas juste une opinion ou éventuellement même une opinion manipulée dans un sens ou dans un autre.
Il faut
qu'il y ait du fond, donc il faut qu'il y ait une méthodologie, et puis que si on dit à l'agence de notation, bon ok, vous avez dégradé, mais au nom de quoi vous l'avez dégradé, c'est-à-dire en appliquant votre méthodologie, quels sont les critères qui ont fait que ça a conduit à la dégradation, et bien à ce moment-là, elles doivent être capables de l'expliciter. Donc c'est ça qui donne un peu plus de légitimité, mais après, ne vous y trompez pas, ça reste une opinion. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous êtes investisseur pour acheter de la dette publique française ou pas. mais ça ne veut rien dire en fait sur ce qui va se passer, sur les conséquences politiques. Ou alors évidemment ça va intervenir dans le débat, ça va intervenir dans les médias, on va en parler beaucoup.
Conséquences politiques, on est en pleine campagne européenne et le camp présidentiel n'est pas en très bonne posture, Xavier Timbaud.
C'est certain. Et si les agences de notation ou l'une d'entre elles dégradaient la note de la France, ça ne manquerait pas d'intervenir dans ce débat en disant ben voilà où nous conduit la politique menée par le gouvernement. Et vous voyez bien que c'est un échec, même si cet échec est juste en fait dans le regard que portent ces agences de notation à ce stade. Donc oui, ça a une influence. Ces agences en sont conscientes. Elles essayent de ne pas être manipulatrices. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on peut dire qu'elles vont probablement pas dégrader la France, parce que en fait, elles regardent aussi ce qui se passe sur les marchés. Et quand sur les marchés, il n'y a pas de doute, eh ben, elles vont pas en rajouter en disant oui, mais nous, on a une opinion qui va contre les marchés. Et donc, en fait, elles nous racontent un peu ce que les marchés disent. Et vous voyez, on est un peu dans un vieux phénomène que décrivait Keynes. Qui est le phénomène du concours de beauté, c'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez plus tellement à juger le candidat, mais vous cherchez à avoir à peu près le même avis que tous les autres membres du jury. Et ça peut conduire à des situations très particulières dans lesquelles il y a une forme de conservatisme dans votre jugement qui est que vous dites à peu près toujours la même chose et vous n'osez pas trop élever la voix parce que ça vous distinguerait par rapport à vos collègues du jury.
Bien, en tout cas, on attend ce soir le verdict de ces deux agences américaines, Fitch et Moody's, qui vont donc rendre publique leur notation de la France sur sa solidité financière. Donc, merci Xavier Timbaud, économiste, je le rappelle, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci à vous.
Merci. I'm
free. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024. I'm free.
Il est 6h50, bon réveil, vous écoutez Europe 1, bonjour, avec les initiatives positives.
Bonjour Jean Z.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombli.
Bonjour. Ce matin, on parle gastronomie et insectes.
Si c'est possible. Ouais. On va parler d'un succès discret parmi les start-up industrielles françaises. Il faut dire qu'Innovafeed, c'est la société dont on va parler. Innovafeed élève dans l'est de la Somme des insectes, des grosses mouches noires, très exactement. Voilà, désolé si vous êtes au petit déjeuner, si bien la tartine dodu. Passe mal, bien dodu, exactement. Mais ce marché, tout de même, des insectes est en plein développement, une alternative écologique et durable pour cette filière, un secteur de l'insecte qui espère un chiffre d'affaires à plus d'1 milliard d'euros dès cette année. Alors à titre de comparaison, la filière laitière en France, c'est 40 milliards par an. Oui. Donc voilà, c'est petit. Mais ça n'empêche pas ce secteur de produire plus de 6000 tonnes de protéines en Europe chaque année. Des insectes utilisés principalement pour nourrir les animaux.
Ça s'adresse à quel type d'élevage?
Alors déjà, Innovafeed, ça élève des mouches soldats noirs. C'est comme ça qu'on les appelle, ces mouches dodues, qui servent aussi bien à la nourriture de porc, de volaille, à l'aquaculture, saumon, crevette, truite, et l'alimentation des chiens et des chats, désolé pour miner. Le groupe produit, je le disais, des huiles, également des engrais, toujours à partir de ces mêmes grosses bêtes noires. Alors ça a l'air simple, dit comme ça, les mouches, parce qu'on les connaît, hein, voilà, puis l'été arrive, donc on va encore mieux les connaître. Mais la société, née en 2016, possède une vingtaine de brevets pour développer cet élevage très varié.
Bon, Innovafeed, qui rêve aussi d'Amérique.
Effectivement, la société s'exporte aux États-Unis. Elle a inauguré sa première implantation industrielle hors de France il y a quelques jours. Un centre d'innovation dans l'Illinois, 15 salariés au total, coût de l'opération 12 millions d'euros. Ce n'est pas fini, dans 18 mois, un immense site de production sera lancé, toujours aux États-Unis, qui doit quadrupler les capacités de production de l'entreprise. Cette fois, l'investissement sera de l'ordre de 100 millions d'euros, mais tout va bien pour Innovafeed. La société a levé 450 millions d'euros depuis sa création en 2016.
Et c'est une société qui ne vise pas que le marché de l'élevage ou de l'engrais, Jean.
C'est le moment où ça coupe l'appétit. Derrière tout ça, il y a le rêve du marché des aliments pour les humains, voilà. C'est-à-dire nous autour de la table. Bon, notamment pour les sportifs. Alors pourquoi? Parce que les sportifs sont friands de produits hautement protéinés, voilà, parce que c'est bon pour les muscles. Et revoilà nos insectes. Alors on n'y est pas encore. La barrière culturelle, on l'entend ce matin, est encore là. Ce qui n'empêche pas Innovafeed de réaliser d'ores et déjà son rêve américain.
Un petit bol de grillon pour l'apéritif, Jean.
Prendre un petit café avec quand même. Voilà. Ouais, ou un gros. Un allongé, s'il vous plaît.
Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci. À lundi sur Europe 1.
C'était Initiative Positive avec General IPME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
6h53 sur Europe 1, le journal permanent. Fanny Marceau.
Les étudiants pro-palestiniens de plus en plus mobilisés aux États-Unis. Au moins 60 universités font face à des manifestations et des occupations, dont celle de Columbia à New York, qui annonce ce matin ajourner leur évacuation pour poursuivre les négociations. En France, Sciences Po Paris a de nouveau été occupé hier soir par près d'une centaine d'étudiants qui réclament que l'établissement condamne clairement les agissements d'Israël. C'était un geste de désespoir qu'Engie Girac a finalement confié aux enquêteurs que sa blessure par balle lundi matin dans sa caravane était une simulation de suicide pour dissuader sa femme de le quitter. Le chanteur avait initialement affirmé qu'il s'agissait d'un accident. L'enquête va être abandonnée. Les agences de notation Fitch et Moody's vont réévaluer la crédibilité financière de la France ce soir. Dégradation de la note, si elle reste raisonnable, n'aurait que peu d'impact sur les marchés. Les explications de l'économiste Xavier Timbaud, invité d'Europe 1 Bonjour, à retrouver sur europe1.fr. Et puis plus qu'un mois avant Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du Grand Chelem parisien, cette année, petite nouveauté, le cours Suzanne Lenglen sera couvert. Un toit rétractable a été installé.
Merci Fanny, la revue de presse internationale dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar Pays Gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, il est 6h56.
La revue de presse internationale, nous sommes ce matin en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis.
Bonjour.
Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Parfum de Jeux Olympiques dans la presse. De quoi parlent les journaux grecs ?
Eh bien, de la flamme olympique remise aujourd'hui aux organisateurs français. La cérémonie de passation aura lieu au stade Panathénaïque d'Athènes, précise le quotidien Ikathemerini. C'est là que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896, continue le journal. La flamme a été allumée au cœur du sanctuaire d'Olympie, dans le sud de la Grèce, comme le veut la tradition, et a parcouru 5000 km à travers le pays, souligne le magazine L'Ifo. Samedi, la flamme olympique embarquera à bord du Bélem, mythique trois-mâts français amarré au port du Pirée à côté d'Athènes, écrit le quotidien Tanea. Destination Marseille, ville depuis laquelle la flamme olympique entamera un voyage en France avant d'arriver à Paris le 26 juillet, s'enthousiasme le journal Ikathemerini.
Nous sommes aussi en Belgique. Laura Van Lerberg, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les gros titres des journaux belges.
Les demandeurs d'asile doivent désormais contribuer à leur accueil en Belgique. Un projet de loi vient d'être adopté, nous apprend l'agence de presse Belga. Le montant que les demandeurs d'asile qui travaillent devront verser dépendra de leurs revenus, explique le journal Le Soir. Mais aucune contribution ne sera demandée en dessous de 265€ par mois, précise le quotidien L'Écho. Pour les autres demandeurs d'asile, une contribution de 35% sera demandée. La Libre Belgique ajoute, la contribution ne sera pas prélevée à la source. Le demandeur d'asile devra donc payer lui-même le montant et déclarer ses revenus au centre d'accueil, mais s'il ne s'exécute pas, il devra s'acquitter d'une cotisation plus élevée et pourrait même être exclu. Cette mesure existe depuis 2011, rappelle le journal Echo, mais sa mise en œuvre s'était longtemps heurtée à des obstacles politiques et juridiques.
Merci Laura Van Lerberg, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Europe 1, il est 6h58.
Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Oblin Roche. Bonjour Anissa Dadich.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et bonjour, bienvenue chers auditeurs. C'est le jour J pour la dette publique française. Fitch et Moody's, deux des trois principales agences de notation, vont dévoiler leur note de crédit pour la France ce soir. D'habitude, on dit une note de crédit, c'est-à-dire qu'il est question d'argent, il est aussi question de confiance. Est-ce que la France est encore crédible sur les marchés ? Allons-nous nous faire dégrader ? On va en parler ce matin, 8h10. Nous serons avec Catherine Vautrin, la ministre du Travail, travail, de la santé et des solidarités. Elle sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews. On va également vous faire voyager ce matin sur Europe 1. Nous irons en Belgique. Alors, je vous avoue qu'on a un petit peu halluciné à la rédaction d'Europe 1 il y a 10 jours de cela, au moment de l'annulation de cette conférence des nationaux conservateurs. À la manœuvre, on a vu des islamistes qui rencontrent extrêmement peu de résistance là-bas parce qu'ils ont réussi une OPA sur les institutions bruxelloises. Au nom de quoi ? Bah, du progressisme, de l'inclusion également. On va vous emmener en reportage choc tout à l'heure à 7h40 dans les quartiers de Schaarbeek, de Molenbeek aussi, bien connus ici en France. Et dans un quart d'heure, nous serons en ligne avec Fadila Maroufi. Elle est la directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Elle les combat depuis une vingtaine d'années. Elle nous racontera. Et puis on parlera aussi de l'affaire Kenji Girac, le discours à ne pas manquer hier. Alors, c'est pas une offense au chef de l'État, mais le grand spectacle, parce que c'était la conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan. Et hier après-midi, il a livré des éléments clés pour comprendre ce qui s'est passé dans la caravane du chanteur. On va tout vous raconter dans un instant. Voilà pour le programme. Alexandre Ambouline, vous souhaite un bon week-end.
Merci. Bon week-end.
Bon repos et rendez-vous 5h lundi pour Europe 1. Bonjour. Le temps, Anissa Haddadi, ça se radoucit très nettement ce matin.
Alors, ça se radoucit, certes, nous n'avons plus aucune gelée. Nous avons des températures plutôt agréables, 3 degrés à Strasbourg ce matin par rapport au reste